7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RJFM.
C'était le 23 mai 2020, presque 5 mois, Pascal Lescura était officiellement élu maire de Domérat, la première femme maire de Domérat d'ailleurs, et 5 mois après, eh bien, on fait un premier bilan et on voit les perspectives ce matin avec vous, Pascal Lescura, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. 5 mois quasiment déjà, ça doit passer vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Alors oui, ça passe vite, mais c'est quand même 5 mois intenses, hein, avec la gestion de la crise sanitaire, qui, même s'il y a eu un ralentissement, est en train maintenant de un petit peu de nous envahir. Mais bon, bah, ça va bien se passer.
Bon, justement, puisqu'on en parle, hein, du Covid, évidemment, avec l'intervention du président de la République hier, qui nous concerne pas directement, mais quand on est maire d'une commune comme Domérat, comme ça, dans un département, l'Allier, qui est plutôt préservé pour l'instant, même si, bien évidemment, il faut faire attention, ça marque quand même le quotidien, finalement, ça?
Ça occupe bien tout le quotidien, c'est-à-dire que il faut avoir une attention quotidienne. Alors, on va pas parler de stress, d'angoisse, mais quand même, être maire, c'est une grosse responsabilité, surtout d'une commune importante comme Domérat, où il y a effectivement un multi-accueil, 750 enfants scolarisés, des personnes âgées, le quart de la population qui est retraitée. Donc, ça demande une attention vraiment au quotidien, et puis surtout beaucoup de vigilance pour éviter la propagation.
Ouais, bien sûr. Oui. Par exemple, vous avez été confronté en début de semaine avec la crèche de Domérat à un test positif chez une employée. Mesure de précaution,
alors,
finalement.
Effectivement, ça n'a même pas été un test positif. C'est un agent de la crèche qui a donc déclaré le Covid-19. Donc, moi, j'ai pris la décision de fermer le royaume des petits loups en concertation, bien entendu, avec Madame la préfète, avec ma directrice de crèche, avec mes directeurs de service, par prudence. Tout le monde a été testé. Alors, la personne l'a su samedi. Tout le monde a été testé. Nous avons pris la décision de fermer dimanche. Tout le monde a été testé lundi. Mardi, tous les tests étaient négatifs. Donc, il y a eu réouverture. Ce qui veut dire que quand on est vigilant, quand on respecte les gestes barrières, quand on met le masque, quand on fait attention, surtout dans une crèche où il y a quand même du toucher avec les enfants, ça veut dire qu'on peut éviter la propagation. Voilà. Alors, je dis pas à 100%, mais quand on a beaucoup de vigilance et qu'on fait attention du bon sens et que les gens sont responsables, je pense qu'on peut quand même éviter cette propagation.
Donc, tout a repris normalement hier.
Oui, tout à fait, oui.
Ouais. Ce qui montre que les maires doivent être réactifs. Finalement, faut prendre des décisions rapidement. Vous l'avez su samedi, dimanche, décision de fermeture.
Réactif, d'autant plus qu'on a eu beaucoup de mal à avoir l'ARS. D'ailleurs, on n'a pas eu l'ARS qui n'a pris contact que le lundi. Alors, moi, je suis pas très contente, hein. Je le dis aussi parce que je pense que, effectivement, en tant que maire, il faut être réactif, faut prendre les décisions et moi je suis partie prenante de la prudence de toute façon et de la protection de la population et ce que j'ai déjà fait ultérieurement dans le cadre de la non-ouverture de mes centres de loisirs cet été en attendant de faire habiliter chacune de mes écoles de façon à ce qu'on évite le brassage. Ça s'appelle de la prévention, tout simplement.
D'accord, donc ça veut dire que quand il y a des situations qui arrivent comme ça le week-end, c'est pas toujours facile d'avoir les réponses des autorités, en fait. C'est ça que vous souhaitez faire remonter.
Non, c'est pas facile, donc il faut faire marcher ces réseaux pour arriver à avoir les personnes qui peuvent vous donner les bons conseils et puis surtout les autorités au-dessus.
Ouais, bien sûr. Vous faites le lien justement avec les centres de loisirs. Effectivement, ça avait fait un petit peu parler. Il y avait eu quelques mobilisations de parents pas contents cet été avec ces fermetures. Est-ce que pour la Toussaint, en revanche, ça sera bon du coup?
Bien sûr. Alors, sans regret ni remords, hein, je ne regrette absolument pas ma décision.
Une décision que vous assumez, oui.
Que j'assume pleinement et avec mon équipe. Donc, nous avions immédiatement l'été demandé une dérogation pour l'habilitation des écoles. Toutes les écoles sont donc habilitées. Les enfants seront accueillis. Donc, les inscriptions sont faites à partir des vacances de Toussaint, donc lundi prochain, chacun dans l'école qu'il fréquente. Donc, les centres de loisirs reprennent, mais sous une forme différente. Il n'y aura pas de brassage de tous les primaires dans un même lieu, de toutes les maternelles dans un même lieu. Ce sera dans chaque école qui est habituellement fréquentée par les enfants.
Ce qui a changé, c'est donc que vous avez l'habilitation pour tous les sites que vous souhaitiez.
Alors, pour toutes les écoles, et puis ce qui a changé aussi, ça demande plus de personnel, plus d'encadrement, plus de moyens. Effectivement, ça a un coût, mais ben, voilà, on ne prend pas de risque.
Ouais, un coût que vous assumez forcément.
Un coût qu'on assume, bien sûr, que ce soit en termes de personnel, d'encadrement et puis aussi de désinfection. Enfin, ça fait plus de locaux à entretenir, bien entendu. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter.
Ouais. Voilà. Donc il y aura bien des accueils de loisirs à Domérat pour les vacances de Toussaint.
Tout à fait. Et pour Noël aussi, on a demandé une dérogation jusqu'à la fin de l'année, mais bien entendu qu'on va prolonger tant qu'il y a la crise. Et je pense que Noël ne va pas sonner la fin,
non.
Malheureusement.
Le président de la République a dit au moins jusqu'à l'été prochain.
Voilà, donc je pense qu'on va poursuivre comme ça, dans la mesure du possible, oui, bien sûr.
Bon, évidemment, ce contexte, il pèse, mais est-ce qu'on peut quand même avancer sur d'autres projets?
Bien sûr.
En parallèle.
Donc, en attendant, on avance sur d'autres projets. Donc, nous sommes en train de travailler avec les directeurs sur la mise en place de la loi de transformation de la fonction publique, c'est-à-dire qu'au 1er janvier, cette loi devrait être mise en application à Domera. Chacun sait que toutes les collectivités ont jusqu'à un an après l'élection. Donc moi, j'étais élue le 15 mars, d'autres au mois de juin. Ceci étant, nous avons fait le choix de le mettre en application au 1er janvier puisqu'il s'agit d'un calcul horaire et que c'est plus facile de le faire sur une année civile.
Alors là, concrètement, ça touche aux ressources humaines finalement de la collectivité.
Ça touche aux ressources humaines, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, il y a 96 décrets d'application, je ne vais pas tous vous les citer, mais le principal, c'est de faire en sorte que tous les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, comme tout le monde dans le cadre de la législation du travail, appliquent les 1607 heures annuelles, ce qui n'est pas le cas de nombreuses collectivités. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus, bien entendu en accord avec les agents, parce que l'objectif, c'est de remplir la mission, de rendre un meilleur service, mais c'est aussi que les agents s'y retrouvent. C'est-à-dire que comment on négocie, est-ce qu'on... Il y aura un temps hebdomadaire qui peut passer à plus de 35 et tout, de façon à conserver quand même des jours de congé, mais d'être dans les règles de la loi qui doit être mise en application et qui sera. D'autre part, nous travaillons sur les astreintes. Et puis, dans la foulée, ce sera effectivement la mise en œuvre du RIFSEP. Donc, il y a un gros chantier en termes de ressources humaines sur lequel nous sommes complètement employés.
Ouais.
Voilà, ça c'est côté ressources humaines.
Qui sont des chantiers qui se voient pas forcément, mais qui sont pas forcément évidents. On est parfois sur un fil, hein, lorsqu'on touche aux horaires de travail, au temps de travail des agents.
Après, on se doit de respecter la loi. Ceci étant, ça veut pas dire punir, hein. C'est-à-dire qu'on va trouver des accords pour que tout le monde s'y retrouve, que le service public soit bien rendu et que les agents soient épanouis dans le cadre de leur travail.
Bon, voilà. Les discussions donc avancent.
Discussions avancent et ce sera en place pour le 1er janvier.
Voilà. Ça, c'est des choses qui se voient pas forcément, mais qui effectivement doivent prendre du temps.
Ça demande beaucoup de travail.
Ouais. Parlons des chantiers également. Alors des chantiers peut-être un petit peu plus visibles. Hein. Vous aviez annoncé des projets de rénovation ou de dans les prochains mois. Est-ce que là, on a pu avancer également sur certains?
Alors, on n'a pas avancé comme on a voulu. Ceci étant, on a quand même fait un certain nombre de projets qui se sont réalisés, comme le drainage des terrains de foot, comme les changements au niveau du chauffage du centre municipal Albert Poncet et du COSEC. Donc il y a un certain nombre quand même de projets, pareil au niveau de l'avancement de nos changements au niveau de l'éclairage public. Tout ça a pu se faire, tous les travaux de voirie, de réfection du parking du centre municipal, ça c'est des travaux qui ont pu avoir lieu cet été. D'autres travaux ont pris du retard, à savoir il y avait trois gros chantiers qui devaient démarrer, alors j'espère qu'il y en a qui vont démarrer d'ici la fin de l'année, mais au pire au début janvier. C'est le local de la pétanque. Alors nous avons lancé un appel au début de l'été à architectes et je suis assez surprise que cet appel ait été infructueux. Donc nous devons le relancer, ce qui a retardé bien entendu après la consultation des entreprises et tout ça, puisque pour l'instant nous en sommes à ce stade-là et voilà, on ne pouvait pas le faire pendant le confinement bien entendu.
Ouais.
La deuxième chose, c'est le local qui nous a été rétrocédé par le département à côté du collège. Là, ça a été plutôt un blocage administratif. Hein. Après la délibération du conseil départemental, il y a eu un blocage au niveau de la préfecture, puis de l'éducation nationale en termes de mise à disposition de rétrocession. Donc ça a été plutôt d'administratif. Maintenant, on est au point, donc on va pouvoir engager les consultations. Pour ce qui est du préau, nous avons revu notre position pour le préau de l'école Paul Langevin. Nous sommes partis sur une autre réflexion. Hein. Et puis, par contre, les études sont toujours en cours. Et là, on démarrait au niveau de la réfection de l'église, au niveau d'une éventuelle couverture d'un court de tennis pour l'année prochaine. Donc, les dossiers se préparent. Effectivement, on aura du retard sur 2020, mais je pense qu'on va démarrer, on va bien démarrer sur 2021. Les dossiers seront prêts. Et puis, on est aussi dans la réflexion sur l'installation des aires de jeu et l'amélioration des aires de jeu. Et ça, c'est un dossier qui est en cours. Donc, j'espère qu'on pourra démarrer pas mal de choses avant la fin de l'année, qui est quand même très proche.
Ouais, c'est vrai, on y arrive. Sur le local cédé par le département, l'objectif c'est d'en faire quoi finalement?
L'objectif, c'est un local qui servait en termes de salle de musique, salle d'art plastique et de par la restructuration du collège ne sert plus. L'objectif c'est de le mettre à disposition pour une part aux associations, hein, Et puis d'autre part, oui, ça sera principalement pour les associations. Alors pas forcément en termes d'occupation, mais en termes d'assemblée générale. Enfin, il y a un très grand local, et donc on a plusieurs projets qui vont être finalisés là d'ici la fin de l'année.
Mmh. Voilà. Ouais, c'est pas forcément évident. Parfois, là, vous le disiez, on est obligé de relancer des appels d'offres pour les architectes, notamment.
Ben, je suis un peu surprise le fait d'avoir lancé, enfin, des consultations, et puis qu'on n'ait pas eu de réponse, que ce soit infructueux, qu'on soit obligé de le relancer. Après, ben, j'espère que c'est dû à un surcroît de travail.
Ouais. Voilà. On peut espérer tout
voilà,
ça.
Ouais.
Avec votre prédécesseur, on faisait le point régulièrement sur ces zones commerciales, notamment sur Domera. Il était question en dessous d'Auchan, là où était l'enseigne Allier Bricolage de création, là aussi d'une zone. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est un dossier qui avance ça?
C'est le projet Arche Métropole, hein, donc qui est toujours en stand-by, on va dire, hein, qui est toujours d'actualité. Donc je vais d'ailleurs recevoir le promoteur prochainement, mais il y a toujours un point de blocage, puisque c'est une zone commerciale, et il y a un point de blocage avec un commerce actuel pour une question de déplacement, de reconstruction de parking. Mmh. Donc il y a toujours ce point de blocage qui existe, ceci étant le projet est toujours d'actualité.
Ouais, voilà. Ouais, parce que c'est vrai que le contexte fait que parfois les promoteurs, oui, ils sont peut-être moins enclins à venir, mais là
on est toujours en lien, oui,
il y a
oui,
toujours
tout
le projet.
Comme d'autres projets sur la commune en termes de lotissement, de construction, je veux dire même si les projets ont été retardés ou pour le moment mis en stand-by, ils sont toujours d'actualité, oui, effectivement.
Bon, ben on suivra ça la prochaine fois qu'on vous invitera évidemment à ce micro dans les prochains mois. Merci Pascal Escura d'être passé à notre micro.
Je vous souhaite une bonne journée, merci.
Merci à vous, maire de Domera, on le rappelle, élu depuis le 23 mai dernier. 7h56 sur RJFM, on est ensemble jusqu'à 10h, à tout de suite.
7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM.